Bonsoir Didier Ribon.
Bonsoir.
Je suis particulièrement contente de vous rencontrer ce soir. Ce n'est pas la première fois qu'on discute tous les deux. Cette fois, nous allons parler de sociobiographie, entretien avec Geoffroy Huart, qui est sorti aux éditions Flammarion, Nouvel Avenir. Et c'est un livre vraiment passionnant qui revient sur l'ensemble de votre travail. La première question que j'ai envie de vous poser, Didier Ribon, quel est votre rapport à l'exigence ?
À l'exigence, ah. C'est un rapport assez étroit et intense parce que justement je me donne dans mon travail et dans notamment dans l'écriture un niveau d'exigence qui est parfois d'ailleurs trop élevé. Il faut, quand on a des exigences trop élevées, on est obligé de rabattre un petit peu et de se dire bon, là je vais me donner quelques facilités parce que sinon j'y arriverai jamais. Mais oui, une grande exigence dans mes lectures. Ça retarde toujours mes projets d'ailleurs. Parce que je peux pas écrire une page sur ça sans avoir relu tel livre, telle référence, tel classique, des choses que j'avais lues autrefois et que j'ai oublié, ou des choses que j'ai jamais lues ou que je découvre en travaillant. Et donc, oui, le niveau d'exigence est toujours très élevé.
On découvre ça dans ce livre. Je vous pose cette question pour la raison suivante. Vous dites qu'à un moment donné, vous avez tenté d'écrire des romans par deux fois. Et que finalement, vous avez abandonné parce que vous avez une grande admiration pour Claude Simon. On découvre aussi dans ce livre. Enfin, en fait, on découvre sans découvrir. Parce qu'il y a des choses que vous avez parsemées dans votre écriture jusqu'ici. Hein. Et vous dites que finalement, ce qui vous rattrape toujours, c'est ça. C'est une écriture exigeante parce que vous dites que il y a quand même rien de plus difficile que d'écrire une biographie. Vous en avez écrit, donc. Et alors ça, c'est un travail qui est pour vous vraiment le plus difficile dans l'écriture. C'est pour vous, c'est la biographie.
Les romans, ça a été sans doute pour moi. J'ai commencé deux romans et commencé et bien avancé dans deux romans. Je ne les ai jamais terminés. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? On ne le saura jamais puisque je ne les ai pas terminés. Et au fond, je ne regrette pas puisque ça ne sert à rien de regretter ce qu'on n'a pas fait puisque c'est ce qui a permis de faire à la place ce qu'on a fait. Donc ce que j'ai fait, ces deux romans, je les ai abandonnés parce que je ne les trouvais pas satisfaisants. Je me rêvais en nouveau, je me fantasmais en nouveau Claude Simon, et à chaque fois que j'ouvrais un livre de Claude Simon, je me dis oui, bon, il y a encore du travail pour être un nouveau Claude Simon, et surtout un talent littéraire que je n'ai pas, et surtout ça reproduisait un peu le style de Claude Simon que j'admire, mais quand des auteurs font des choses nouvelles, les recommencer. C'est plus la chose nouvelle puisque quelqu'un l'a déjà fait, et donc il ne faut pas essayer de refaire ce que des gens ont fait. La biographie de Foucault, qui a été mon premier livre, j'ai fait deux livres d'entretien auparavant avec Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss. La biographie de Foucault, ça a été un énorme travail, et je dirais que oui, c'est sans doute le livre qui m'a demandé le plus de travail, qui m'a coûté le plus de peine, de difficulté, parce que quand vous faites la biographie de quelqu'un, il faut maîtriser différentes époques, différentes questions, le parti communiste dans les années 45-55 en France, le structuralisme dans les années 60, le gauchisme mai 68, l'université de Vincennes, etc. Il faut maîtriser tant d'époque, la politique, la culture, la vie intellectuelle, les idées à différentes époques, et comment l'auteur en question, Michel Foucault, s'y était inscrit dans ces configurations-là, que je me suis dit, je ne ferai plus jamais ça. Et en fait, j'ai refait une deuxième biographie intellectuelle qui est celle de Georges Dumézil, dans un livre qui s'appelle « Faut-il brûler Dumézil ?» avec pour titre « Mythologie Sciences et politique, qui est sorti 3 ans après la biographie de Foucault. Mais en effet, c'est des livres qui m'ont coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout, il faut vérifier chaque détail, les dates, les... Tandis que quand j'écris Retour à Reims, bizarrement, je ne dis pas que ça a été facile d'écrire Retour à Reims. Quand j'écris Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, Dieu sait que ça n'a pas été facile de l'écrire. Mais, comment dire, je suis libre de mon écriture. Tandis que dans une biographie, vous êtes contraint par des données, par des faits, des dates. Et si vous dites en telle année, vous aurez toujours quelqu'un qui dira « Ah, il se trompe de date sur ça ». Donc tout le reste doit être faux. Parce que si vous faites une erreur, ça veut dire que tout le reste est faux. Il y a un côté impitoyable comme ça de la critique.
Mais en fait, ça, je trouve que ça raconte beaucoup de vous, et on le voit bien en filigrane dans ce livre. C'est-à-dire que il semblerait que rien ne vous agace plus qu'une lecture qui ne soit pas juste. Dans ce livre, vous racontez aussi comment des interprétations universitaires vous ont mis hors de vous sur des interprétations de textes écrits sur notamment justement voilà tous ces intellectuels que vous avez fréquentés assez jeunes, et que ça peut vous mettre dans un état de colère extrême. Et en même temps, ça revient aussi à ce travail que vous effectuez dans Retour à Reims ou dans Vie et vieillesse. Il y a cette nécessité dans votre écriture, Didier Ribonde, d'être précis sur ce dont on parle.
Oui, oui. Ah oui, parce que dans Retour à Reims, j'essaie de respecter les faits.
Absolument. Et vous respectez la classe sociale. La vous classe dites, sociale. En fait, vous citez Deleuze, en fait, à un moment donné, en disant le sujet, c'est pas la compréhension, mais finalement, ce qui est plus important, c'est la prise en considération des ressentis du lecteur. Donc, vous avez quand même en vous une forme de loyauté au réel qu'on retrouve aussi bien quand vous écrivez la biographie de Foucault que quand vous écrivez Retour à Reims.
Quand j'ai écrit Retour à Reims, évidemment, j'essayais d'être loyal vis-à-vis des personnes dont je parlais, c'est-à-dire, en l'occurrence, ma mère, mon père, mes grands-mères, mes frères. Mais évidemment... être loyal à ma mère, par exemple, ne voulait pas dire que je brossais d'elle un portrait idyllique. Je ne peins pas des enluminures ou des portraits édifiants. Je voulais pas faire un portrait de la, genre stalinisme ou réalisme socialiste des années 50, où la grande et belle classe ouvrière. Je voulais à la fois redonner la parole à la classe ouvrière, en l'occurrence à ma famille, parler des difficultés de leur vie, la dureté des métiers qu'ils avaient exercés, comment ils avaient essayé de surmonter toutes ces difficultés. En même temps, je devais parler aussi de leur racisme, de l'homophobie de mon père, tout un ensemble. C'est cette complexité-là que j'essayais de... Les faits, c'était cette complexité. Donc, c'était difficile parce que on m'a reproché une prolophobie, de dire du mal des prolétaires. Les gens qui m'ont reproché ça n'ont sans doute pas vécu dans le milieu dans lequel j'ai vécu, où on vivait dans un cube de ciment à 4, sans chauffage et sans salle de bain quand j'étais enfant. Mais donc, évidemment, aucune prolophobie. Simplement, ma famille, enfin, mon père était homophobe, tout mon milieu social était homophobe. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fui mon milieu familial, la ville de Reims pour m'installer à Paris, et dire ça, c'est la vérité. Donc je devais, Retour à Reims, c'est un livre vrai, et ce n'est pas un roman. À part ma mère qui m'a dit « Tout est faux dans ton livre, c'est un vrai roman », et quand je lui dis « Mais non, maman, tout est vrai, tu le sais bien », et elle m'a dit « Peut-être, mais tu n'avais pas besoin de raconter ça dans un livre ». Alors, je vais passer à autre chose, tu vois.
Non, mais vous êtes quand même attaché. Le réel est une chose très importante et on dit pas n'importe quoi. Et quand on dit qu'en fait, vous citez voilà, avant cela, quand justement vous avez ces entretiens avec Dumézil, Lévi-Strauss, quand il y a des écrits sur Foucault, en fait, ça vous rend dingue quand il y a quelqu'un à un moment donné qui sous-entend quelque chose qui n'est pas vrai. Et de la même façon, c'est ce que vous êtes en train de dire quand vous parlez de votre mère. Vous n'êtes pas capable de ne pas dire ce qui se passe.
Ce qui se passe, oui. En fait, je peux parler d'un de mes livres qui est « Faut-il brûler Dumézil ?»
Oui.
J'avais fait avec Georges Dumézil, donc le grand historien des religions, grand mythologiste, qui est un des pionniers du structuralisme en France. Et je l'ai connu parce qu'il était très célèbre dans les années 80. Et c'était un grand ami de Michel Foucault. Et je raconte dans Sociobiographie comment j'ai été amené à le rencontrer et pourquoi j'ai voulu faire un livre d'entretien avec lui. Je fais ce livre d'entretien qui est sorti en 87. Et il est mort à ce moment-là, en 87. Et puis, à ce moment-là, il y a une polémique qui se déclenche contre lui où on dit, des historiens italiens disent, il a été pro-nazi pendant la guerre et son livre « Mythe et Dieu des Germains » en 1939 porte la trace évidente de sympathie pour la culture nazie. Alors, j'ai commencé à interroger des gens autour de moi. Et l'argument, c'est qu'il était proche de Maurras, il était maurassien dans les années 20, donc nécessairement pro-nazi dans les années 30 et 40. Or, il y a un livre de Maurras qui s'appelle « Contre l'Allemagne éternelle » ou quelque chose. Les maurassiens étaient nationalistes, très, très, très hostile à l'Allemagne dans les années 30. Après, ils ont soutenu le régime de Vichy, mais sans être pro-nazi ou pro-allemand. Mais Dumézil ne pouvait pas dire, puisqu'il a été maurassien, il a été nazi. Il fallait le montrer. Or, ce livre, « Mythe et Dieu des Germains », il y avait eu un article très élogieux de Marc Bloch, en 1940, en disant... Ce livre nous met en garde contre la résurgence de la vieille Germanie antique qui va déferler sur l'Europe. Si Marc Bloch, en 1940, n'a pas vu de sympathie pour le nazisme dans ce livre, qui sont ces gens qui, en 1985-86, viennent dire aussi, c'est des traces évidentes. Marcel Mauss, le grand sociologue, qui est le fondateur du comité de vigilance antifasciste, n'a pas vu de traces de sympathie pour le nazisme. Il publiait ses livres dans les livres de Dumézil dans les collections qu'il dirigeait. Maurice Halbwachs, le sociologue arrêté pour fait de résistance et exterminé à Auschwitz ou à Brunwald, je ne sais plus. Avait envoyé une lettre à Dumézil pour le remercier de ce livre, le féliciter, etc. Si Marcel Mauss, Maurice Halbwachs, Marc Bloch, et puis tout un milieu savant très engagé à gauche, pas seulement beaucoup de juifs, mais aussi gens qui n'étaient pas juifs, mais des savants très engagés à gauche, militants antifascistes, militants anti-nazis, ont fait l'éloge de ce livre. Comment est-il possible de venir en 1985 dire les traces de sympathie pour le nazisme sont évidentes? Donc j'ai mené une enquête dans les archives et j'ai montré par exemple que Dumézil, dans les années 35-36, collaborait à un journal, un quotidien dans lequel il faisait sous pseudonyme une chronique dans lequel il disait « Germania rediviva, la barbarie germanique va déferler sur l'homme » et il disait « L'horreur qui se passe, la nuit de cristal ». Tous ces articles montrent qu'il avait une horreur, que le nazisme lui a inspiré une profonde horreur et une grande frayeur, parce qu'il disait « Les pays européens doivent comprendre ce qui est en train de se passer, c'est la résurgence de la barbarie allemande, de l'Antiquité. Mythe et Dieu des Germains, c'est un livre sur la mythologie ancienne, archaïque, antique des pays germaniques. Et cette résurgence doit nous faire... l'étude de cette mythologie guerrière, violente, doit nous faire comprendre que cette résurgence des mythes Germain est une menace qui pèse sur l'Europe.
Et d'ailleurs,
donc, c'est tout le contraire de sympathie pour le nazisme. C'est une mise en garde contre le nazisme. Oui. Donc,
mais c'était important pour vous de le dire et
de faire un livre.
D'où vous vient cette exigence-là ? On a parlé d'exigence-là dans l'écriture, dans votre travail, mais cette exigence du réel, c'est-à-dire on ne triche pas avec... D'où elle vous vient, celle-là ?
Mais il y a deux choses. C'est qu'à ce moment, j'avais fait un livre d'entretien avec Georges Dumézil. Si on m'avait montré qu'il avait eu de la sympathie pour le nazisme, je me serais senti un petit peu mal rétrospectivement. Et donc, j'ai voulu en avoir le cœur net.
Okay.
Et j'en ai parlé à Claude Lévi-Strauss, puisque j'ai fait, après le livre sur Dumézil, avec Dumézil, un livre d'entretien avec Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss m'a dit, aucun de nous, c'est-à-dire aucun des savants de l'époque, n'a jamais pensé que Dumézil a eu de la sympathie pour le nazisme. Donc, j'ai interrogé des gens, j'ai fouillé les archives, j'ai retrouvé des documents, etc. J'étais content, comme je dis dans Sociobiographie, Dumézil était resté maurassien dans les années 30. C'était un homme qui, le moins qu'on puisse dire, n'était pas très à gauche. Sans doute, j'aurais pas pu être ami avec lui à cette époque-là, mais il n'a surtout pas été nazi et il n'a pas été antisémite. Ça, c'est certain. Il est, comment dire, le nazisme lui inspirait une profonde horreur. Et donc, il y avait cette question personnelle qui était l'amitié avec lui, enfin le travail qu'on avait fait ensemble. Il y avait une deuxième question, c'est un moment où il y avait une offensive dans la vie intellectuelle française au milieu des années 80 contre l'héritage de mai 68 qui bizarrement était assimilé à l'influence du structuralisme. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre structuralisme et mai 68, j'ai jamais très bien compris, parce qu'il y avait évidemment il y avait Althusser, mais le structuralisme c'est aussi Roman Jacobson, c'est aussi Georges Dumézil, c'est aussi Jean-Pierre Vernant, qui avait été communiste et un grand résistant, un héros de la résistance. Donc le rapport entre le structuralisme et la politique était quelque chose de, comment dire, on ne peut pas tracer un lien direct, etc. Donc l'idée que la pensée 68, c'était le structuralisme, et comme il fallait se défaire de la pensée 68, qui était d'un seul coup accusée de tous les maux de ce qui se passait, moi je trouvais que la montée du Front National était plus dangereuse que l'héritage structuraliste, vous voyez, mais la pensée 68 était accusée de tous les maux, tout le monde mis dans le même sac, etc. Donc, j'ai voulu montrer qu'il y avait une autonomie. Aussi, c'est ce livre sur si Dumézil pouvait être ami avec Marcel Mauss, ami avec un autre grand penseur structuraliste qui est le linguiste Émile Benveniste, qui, dans les années 30, Émile Benveniste qui a fui. Quand Dumézil, qui était franc-maçon, donc pas très nazi, qui a été destitué de son enseignement parce qu'il avait été par le régime de Vichy, parce qu'il avait été franc-maçon, et Benveniste s'était enfui en Suisse parce qu'il était juif, et il a survécu donc à la barbarie. Si ces deux savants, l'un qui était très à gauche et l'autre très à droite, pouvaient travailler ensemble, ils avaient des polémiques, la polémique portait sur la racine grecque de je sais pas quel mot. En fait, dans les années 30, ils n'avaient pas d'autres préoccupations que les étymologies du vocabulaire indo-européen. Mais en tout cas, il y avait une autonomie du champ scientifique, de la discussion scientifique et intellectuelle, qui sans doute ne serait plus possible aujourd'hui. Mais à l'époque, un savant qui était plutôt d'extrême droite et des savants qui étaient très à gauche, comme Marcel Mauss, comme Marc Bloch, comme Émile Benveniste, pouvaient cohabiter dans une même communauté scientifique, écrire les uns sur les autres, se publier dans leurs revues, se commenter, se discuter, parfois se critiquer. Mais la critique n'est jamais d'ordre politique. Elle était d'ordre purement scientifique sur des détails, telle erreur, telle...
Ce que vous dites quand même, c'est que l'engagement a toujours fait partie finalement de votre réflexion intellectuelle. Oui. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire aussi. C'est que...
Bien sûr, oui.
Et alors moi, la question que j'ai envie de vous poser du coup, c'est... Quel héritage vous avez de vos parents dans ce cheminement-là? Parce que ce que vous racontez aussi de vos parents dans votre écriture, c'est finalement un certain engagement, même à leur corps défendant parfois, d'une corporation. Une certaine vigueur de la classe ouvrière qui est solidaire. Et on ne peut pas s'empêcher, en lisant ce livre-là, où on retrace vraiment l'ensemble de votre œuvre et de votre réflexion sur plusieurs années, de voir un lien avec votre engagement à vous, Didier Raymond. Selon vous, est-ce que c'est la seule chose que vous avez hérité de vos parents? Est-ce que vous ne l'avez pas hérité? Je me trompe. J'aimerais bien savoir ce que vous avez hérité de vos parents.
Je n'ai pas hérité d'argent parce que quand ma mère est morte il y a quelques années, l'héritage qu'elle nous a laissé, c'était les sommes qu'elle avait sur son code de vie, c'est-à-dire mes trois frères et moi, nous avons eu chacun 5000 euros. Ce qui fait que un héritage social qui est toujours en moi, de mon origine de classe, je ne suis pas propriétaire de mon appartement à Paris, je n'ai pas de patrimoine, je n'ai pas de maison secondaire, je n'ai pas de valeur en bourse, je n'ai que mon travail, ma retraite d'enseignant du supérieur et mes droits d'auteur. Alors je ne me plains pas. Sur l'héritage de classe, oui. C'est très important. Des gens me disent, mais il ne reste plus rien en vous de votre origine ouvrière. D'une certaine manière, c'est vrai. Mais par rapport à mes amis qui sont issus de la bourgeoisie, par exemple, à qui leurs parents ont offert un appartement quand ils avaient 18 ans ou 20 ans, qui ont ensuite touché des parts d'héritage considérables, ça fait une différence. Et la différence de classe perdure. Les métiers que j'ai exercés, je n'avais pas d'argent pour faire une thèse, donc j'ai dû trouver un autre travail puisque
dans ce livre vous racontez.
Donc j'ai commencé à travailler dans le journalisme. Et tout ce que je suis devenu est quand même lié à ce passé social. Malgré tout, alors il y a un héritage politique, bien sûr, puisqu'on parlait de l'engagement, il y a un héritage politique très très fort qui est. Mes parents étaient communistes, ma famille était communiste. Comme je le raconte dans Retour à Reims, chez moi, on disait pas le parti communiste, on disait le parti. Et on votait pour moi je votais pas à l'époque, mais tout le monde votait pour le parti communiste. Mais le parti communiste, c'était pas seulement un vote une fois de temps en temps, c'était une culture, une image de soi, une dignité qu'on se donnait. La classe ouvrière se donnait une... Quoi qu'on pense aujourd'hui, l'époque du Parti communiste, ça c'est autre chose. Pour mes parents, voter pour le Parti communiste, c'était dire nous les ouvriers, nous la classe ouvrière, nous la gauche. Ils se donnaient une dignité, des gens les représentaient dans l'espace, dans la sphère publique, dans l'espace politique, et pour eux c'était très important. Ils existaient dans la politique par l'intermédiaire du Parti communiste. Alors ça c'était très important. Et moi, quand j'avais 16 ans, je détestais le Parti communiste, ces vieux staliniens, etc. Comme je voulais aussi me dissocier de ma famille, je suis devenu un militant trotskiste à 16 ans. Ça m'a duré plusieurs années. Et pour moi, la classe ouvrière, c'était... je reprochais à mes parents leur embourgeoisement parce que leur rêve, c'était pas tellement la révolution, c'était pouvoir acheter une télévision, un canapé, une voiture, etc. Et aujourd'hui, je me dis, fallait vraiment être un jeune imbécile pour reprocher à ses parents qui n'avaient rien de vouloir avoir un peu de confort, des biens matériels, etc. Et parce que pendant que... Moi, j'allais au lycée, puis à l'université... parce que ma mère se levait à 5 heures du matin pour aller travailler en usine. Et donc, et je lui reprochais son embourgeoisement. Et aujourd'hui, quand je me dis, quand je pense que j'ai eu ça dans la tête pendant des années, il fallait vraiment que je sois stupide. Et mais mon trotskisme de jeunesse a été une manière de me dissocier de ma famille et de la classe d'où je venais. Mais c'était aussi une manière de leur rester fidèle.
Absolument.
Parce que je parlais de la classe ouvrière, je voulais défendre la classe ouvrière, j'étais toujours dans les manifestations du 1er mai. Donc, c'est une chose contradictoire, c'était un moyen de me dissocier de ma famille et en même temps un moyen d'être fidèle à ma famille ouvrière. Alors, évidemment, quand j'ai découvert, c'est un des points de départ de l'écriture de Retour à Reims, quand j'ai découvert que mes parents s'étaient mis à voter pour le Front National, ça a été un grand choc. Qu'est-ce qui s'est passé? On disait chez moi le parti, nous la gauche, nous les ouvriers, et voilà qu'ils s'étaient mis à voter pour l'extrême droite. Et donc, Retour à Reims, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, quelque chose? Mais quoi? Je dois comprendre. Et donc, j'ai écrit plusieurs chapitres dans Retour à Reims pour essayer de comprendre ça. Mais aujourd'hui, je suis fidèle à...
Vous êtes absolument...
Je suis fidèle à ma famille. Je suis du côté des... Je vais manifester. Je suis allé manifester avec les Gilets jaunes. Je suis allé manifester contre la réforme des retraites.
Mais vous dites,
Ce
que vous dites dans ce livre, vous dites finalement... C'est une question de formulation, parce que c'est une question aussi d'évolution de la pensée politique. Et la pensée politique a quand même un truc qui ne bouge pas, c'est la non-considération des classes oubliées. Ça, qu'on les appelle classes ouvrières ou autrement, voilà, ça c'est imparable. Et ça ne bouge pas. Et effectivement, vous êtes assez fidèle à ça, dans une forme d'exigence. Parce que donc, j'y reviens, vraiment dans ce livre, on découvre... quelque chose de votre intimité que nous n'avions pas encore dans vos travaux précédents, c'est-à-dire votre écriture. On découvre, par exemple, qu'il y a un lien dans votre exigence par rapport au travail qui n'est pas sans lien, à mon avis, entre l'exigence qu'il y avait dans une usine, à mon avis. On découvre votre exigence au réel, c'est-à-dire d'appeler les choses comme elles sont et non pas de vouloir les interpréter ou en faire du marketing, dont on pourrait, par exemple, parler du FN à cet endroit-là, notamment. Donc, on découvre des ponts, finalement, entre qui vous êtes et ce que vous avez fait. J'ajouterai un dernier élément à ça, c'est votre travail sur les mots, le langage, l'injure, dont vous parlez dans ce livre, à juste titre. L'injure, voilà, par rapport au réel, à sa place, dans cette déformation de la réalité. Le mot qui est le plus cité dans ce livre, c'est le mot honte.
Honte, oui. En fait, j'ai écrit un livre c'est sorti en 2001, qui s'appelle Une morale du minoritaire.
Oui.
Variation sur un thème de Jean Genet. C'est pas un livre sur Genet, mais je commente des textes de Genet. Entre autres, il y a aussi Proust, il y a aussi Jouandeau, Julien Green. Enfin, et la honte, c'est un grand thème qu'on trouve chez Jean Genet. Comment l'ordre social, le monde social, inscrit la honte dans la tête et le corps des minoritaires ostracisés, et notamment par l'intermédiaire, par le vecteur, le moyen de l'injure. Moi, aussi loin que je me souvienne, je connaissais le mot pédé avant de savoir que cette injure, parce que mon père, plus d'autres vocabulaires plus fleuris qu'il utilisait quand il regardait la télé et qu'il voyait apparaître Jean Marais, par exemple,
découvert le mot
je connaissais le mot avant de savoir, je savais que c'était une identité insultable et insultée en permanence, avant de savoir que cette identité, puisque j'étais un enfant, puis un préadolescent, c'est à l'adolescence que j'ai compris que cette identité, je venais, moi, l'habiter, l'incarner, et que ce mot d'insulte qui vise cette identité, en fait, j'en étais le destinataire. Et donc, j'en avais toujours été le destinataire, avec l'effet d'effroi que ça produit sur quelqu'un qui découvre que sa vie va être une vie d'être une personne insultée. Et on le sait, On entre dans une identité insultée, on se dit « quelle va être ma vie ?» Et quand j'avais 16 ans, 17 ans, je ne suis pas devenu seulement un jeune trotskiste, je suis aussi devenu un jeune gay, effrayé par cet effet de destin que les mots d'insulte me faisaient ressentir. Et après, dans la rue, ce vocable injurieux, on l'entend, on ravalait la façade de mon immeuble récemment, les ouvriers sur l'échafaudage, et EPD, mais même chez moi, quand je suis tranquille et que j'essaie de travailler, cette insulte, mais là, il y a
oui, quelque... mais on rit, mais c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle, parce que... J'ai dépassé le stade de l'effroi, de la honte que cette insulte produisait en moi. Mais cette insulte-là, je ne peux pas dire que je m'en fiche. Ça me rappelle l'effroi que je ressentais quand j'étais adolescent et que l'effroi que doivent ressentir aujourd'hui des adolescents, garçons ou filles, qui savent qu'ils ou elles seront l'objet d'insultes et qu'ils sont... ils ou elles sont l'objet d'insultes en permanente. Alors, ça peut être des images dévalorisantes, une remarque au passage, dans un film, un peu moins maintenant, mais comment dire, parce que les cinéastes font attention. Mais malgré tout, c'est aussi une époque où il n'y avait pas de personnages gays dans les films. Quand il y avait des personnages gays, ils étaient toujours voués au malheur, à la mort, au suicide, etc. Soudain, l'été dernier, le film de Mankiewicz, d'après Tennessee Williams.
Oui.
Et la honte, c'est que vous devez cacher ce que vous êtes, puisque vous savez que si on le sait, vous allez être l'objet de colibés, d'insultes, d'agressions physiques au lycée, dans la rue, etc. Ce qui m'est arrivé dans le quartier ouvrier où j'habitais avec mes parents quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et donc, vous avez honte de ce que vous êtes. C'est une honte qui n'est pas un sentiment psychologique. C'est une structure, c'est l'effet d'une structure sociale d'infériorisation qui vous assigne à une position injuriée, stigmatisée. Le grand livre du sociologue Erving Goffman, Stigmate, décrit ça très, 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 très bien. Qu'est-ce que c'est la rencontre entre le normal et le stigmatisable qui, d'un seul coup, est effectivement stigmatisé. Et ça, c'est des très belles pages chez Goffman, dont je m'inspire, mais qu'on trouve aussi chez Genet. Et dans son roman qui s'appelle « Journal du voleur », il y a une page magnifique où il parle de travestis barcelonais. Ces travestis se donnent à elles-mêmes le nom de les Carolines. Elles s'appellent elles-mêmes les Carolines. Et il dit les Carolines, à un moment, elles partent en procession pour protester. Et les gens sur les trottoirs se moquent d'elles. Et il dit, elles se moquaient de ces injures qu'elles recevaient. Il y avait une sorte de guirlande de lumière au-dessus d'elles. Elles étaient lumineuses. Elles étaient les filles de la honte. Et quand j'ai lu cette phrase, quand j'ai relu, parce que j'avais lu Genet très tôt, quand j'ai relu cette phrase, je me suis dit, c'est ça, nous sommes des enfants de la honte. Et la seule manière de sortir de la honte, c'est de s'en sortir par une affirmation orgueilleuse. Des gens me disent, pourquoi parler de la fierté gay après tout, il n'y a pas à être fier d'être gay. Non, il n'y a pas à être fier d'être gay, mais comme il y a à être honteux, on nous a mis dans la tête pendant tant d'années qu'on devait être honteux d'être ce que nous sommes. La seule manière de s'en sortir, c'est de se réapproprier le stigmate, comme dit Goffman, de l'affirmer fièrement, et donc voilà, il y a toujours un peu d'exhibitionnisme, un peu.
Et on voit bien le pont aussi avec, parce que vous parlez aussi de la honte quand vous parlez de la classe ouvrière ou de la famille de vos parents. Et alors, dans ce livre, à un moment donné, il y a un autre pont qui est incroyable. Vous parlez du travail scientifique, vous parlez de la porosité entre la politique et la recherche scientifique. Vous parlez du lien que vous faites entre la philosophie et la sociologie, ce qui n'est pas du tout un lien naturel pour beaucoup d'autres gens, pour regretter. Oui. Vous parlez du lien entre la littérature et la sociologie. Vous citez Proust et vous dites à cet endroit-là qu'il y a évidemment des ponts pertinents à faire et que c'est
grand sociologue.
Qu'on ne le fasse pas.
Et grand philosophe.
Exactement. Et vous dites à un moment donné, finalement, tout ça parle de la normalité et du silence. Et ce que vous êtes en train de dire, Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, on voit bien aussi dans votre écriture, pardon, j'oublie un élément important dans cette liste, c'est que vous avez cheminé dans votre écriture en partant de journaliste, vous êtes passé à des entretiens, puis à une biographie, puis voilà, enfin, à des formes d'écriture différentes pour arriver aujourd'hui à une forme que vous nommez sociobiographie. Et cette forme-là, vous dites aussi qu'elle n'aurait finalement, enfin, on comprend dans votre livre qu'elle n'aurait pas pu être possible dans les années de Bourdieu, puisqu'il n'était pas question de l'intime.
Ah oui. Voilà. Et donc, je peux ajouter un mot sur la honte, parce que j'ai parlé de la honte d'être gay, mais après, quand j'ai quitté ma famille ouvrière, je me suis installé à Paris, j'ai entré dans un milieu plus culturel, la bourgeoisie, la petite bourgeoisie culturelle. Et là, j'avais honte de là où je venais, de ma famille, de mon milieu où la culture n'existait pas. Et donc, la honte, c'est un sentiment très complexe. Il y a pas, on a honte ou pas honte. C'est des structures sociales d'infériorisation qui s'imbriquent. C'est des hontes différentes. Je n'avais plus honte d'être gay, mais j'avais honte d'être un fils d'ouvrier. Et après, j'ai dépassé la deuxième honte, comme j'avais dépassé la première, écrire, je crois que c'est une phrase d'Annie Ernaux d'ailleurs, qui j'ai pu écrire, que j'ai eu honte d'avoir eu honte. Mais avoir honte d'avoir eu honte n'empêche pas qu'on peut toujours avoir honte.
Oui, c'est ça.
Et on est rappelé à la honte. Parfois, quand quelqu'un, je me souviens, quelqu'un un jour a dit devant moi à propos de je ne sais plus qui, oh, c'est une fille de concierge. Et moi, je me suis dit, mais moi, je suis petit-fils de concierge. Ma grand-mère était concierge à Paris. Et d'un seul coup, j'ai pris ça en plein visage. Je me suis dit, mais ouf, voilà comment les gens du milieu dans lequel je vis peuvent parler de gens comme moi sans savoir qu'ils parlent de gens comme moi.
Et là, vous n'êtes pas tendre avec l'univers scientifique.
Non,
vous n'êtes pas tendre avec la psychanalyse, avec les médias. Vous n'êtes pas toujours tendre, mais vous êtes juste, mais pas tendre.
Écrire, c'est toujours...
Voilà, c'est ça.
Écrire, c'est toujours... écrire pour quelque chose, pour faire valoir quelque chose, mais quand on essaie de faire valoir quelque chose, c'est forcément contre les gens. Et je dois dire, quand mon livre est, quand Retour à Reims est sorti, il y avait comme ça dans des revues sociologie, beaucoup d'éloges. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il ne dit pas quelle est sa méthode. Les gens lisent Retour à Reims et la seule remarque qu'ils ont à faire, c'est je ne dis pas quelle est ma méthode. Si je disais quelle est ma méthode, ça serait plus Retour à Reims, ça serait plus ce livre-là. Je serais paralysé par toutes les contraintes académiques de la vie universitaire. Et de fait, Bourdieu, quand il, à la fin de sa vie, quand il écrivait son esquisse, le livre qui est sorti de manière posthume, Esquisse pour une auto-analyse, quand il m'avait fait lire le manuscrit, je lui ai dit, il me faut aller plus loin, vous n'en dites pas assez. Il avait dit, mais que vont penser mes collègues, que je suis devenu fou? Et je lui ai dit, si vous écrivez une auto-analyse en vous préoccupant de ce que vont penser vos collègues, vous ne pouvez pas faire une auto-analyse, parce qu'il faut aller dire des choses. Je lui disais Jean Genet, relisez Jean Genet, vous verrez. Et il m'a dit, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas Jean Genet. Et je lui ai dit, oui, mais parfois, il faut oser.
Alors,
et,
c'est ça, voilà, la question, c'est
moi,
celle-là.
J'ai essayé de briser...
Voilà, vous l'avez pas essayé, vous l'avez fait, absolument.
Oui, oui.
Mais ça veut dire, parce que vous dites finalement que tout ça répond à un cadre. Et ce cadre, c'est la normalité et le silence.
Et le silence,
voilà.
Oui.
Et alors, normalité...
Il y a des choses que je sais parce que je les ai vécues.
Mais c'est
et je ne vais pas faire comme si c'était un savoir purement abstrait que j'avais découvert en élaborant...
Donc, alors, ma question est là.
J'essaie d'élaborer des concepts pour comprendre ce que je sais par expérience et j'essaie d'analyser ce que je sais par expérience à partir de ces concepts et à l'inverse de construire des concepts à partir de cette expérience. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que les classes sociales aujourd'hui? Quelles sont les autres formes de domination et d'oppression? Le genre, la sexualité, être gay, lesbienne, les transgenres. On voit bien aujourd'hui qu'ils sont devenus les victimes de discours de haine, d'une violence inouïe, alors qu'on pourrait penser que ce sont des personnes qui ont des parcours particulièrement difficiles et qui méritent la solidarité de tous et toutes. Eh bien non, c'est devenu les objets de discours et de politiques haineuses et violentes. Donc j'essaie d'analyser l'ensemble des structures de domination, de voir comment elles sont différentes, comment elles fonctionnent différemment, comment elles s'imbriquent en quelqu'un comme... je sais que le concept d'intersectionnalité a été voué aux gémonies par la droite universitaire, mais aussi la droite politique, ministérielle. Intersectionnalité, c'était comme si c'était une folie ultra-gauchiste qui voulait détruire l'université, la société. Mais intersectionnalité, ça veut dire que quelqu'un comme moi, comme vous, comme beaucoup d'autres, comme tout le monde, nous sommes ce que nous sommes, est à l'intersection de différentes déterminations sociales. Moi, je suis un fils d'ouvrier, je suis gay, je suis un homme, je suis blanc. Si j'étais une femme noire, femme de ménage, etc., elle est à l'intersection de la classe, la race, le genre. C'est ça l'intersectionnalité. Et si on veut faire de la sociologie, et si on veut comprendre qui sont les individus et quels sont si on veut comprendre le fonctionnement social, ce qui est l'objectif de la sociologie et de la philosophie, des sciences sociales en général, de l'histoire, ce concept d'intersectionnalité est tout à fait essentiel. Et si on parle d'intersection, nous sommes tous à l'intersection de différents déterminismes sociaux. Intersectionnalité, c'est un concept très important.
La sociologie est sinistrée parce qu'elle ne veut pas prendre en considération ces éléments-là.
Elle est sinistrée parce que aujourd'hui, la sociologie universitaire a tendance à privilégier ce qu'ils appellent l'enquête de terrain. C'est-à-dire, vous allez voir des gens, vous leur posez des questions et vous retranscrivez ce qu'ils vous ont dit. Or, ce que vous disent les individus que vous allez... D'ailleurs, quand vous construisez votre rapport d'enquête, forcément, vous le filtrez, vous l'interprétez. Et d'autre part, si vous en tenez à ce que disent les gens, c'est un enregistrement sténographique de la réalité qui ne correspond peut-être pas à la réalité. Vous avez besoin de savoir, cette personne dit ça... D'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, comment, quels sont le livre de Bourdieu qu'avait dirigé Pierre Bourdieu, La misère du monde. C'était ça, c'est aller voir des gens et non pas prendre pour argent comptant ce que les gens disaient, mais essayer d'aller voir derrière ce que les gens disaient les structures qui n'étaient pas seulement des structures de classe comme ça massivement, classe ouvrière, bourgeoise, mais ce qu'il appelle par exemple la misère de position. Quand vous avez fait construire une maison Bouygues en banlieue ou à la périphérie d'une ville, puis vous vous apercevez que la maison est pleine de défauts, que rien ne va, que vous êtes à 100 km du premier médecin, à 100 km de tout, et vous avez une sorte de d'aigreur, de ressentiment qui naît. Et si vous allez voir cette personne, elle va pas dire j'ai fait une connerie en faisant construire cette maison. Elle va dire oui, le voisin, etc. L'immigré qui vient envahir notre pays, etc. Et en fait, c'est une sorte de déplacement d'objets. Du ressentiment, et il y a donc la nécessité d'une analyse, faire parler les gens pour voir, vous parliez du silence, pour voir ce qui derrière, dans ce qu'ils disent, comment se cache ce qu'ils ne disent pas et qu'il est très difficile de leur faire dire. Et ça, l'enquête de terrain que font les sociologues aujourd'hui n'essaie pas.
Est-ce que la sociobiographie, c'est justement s'affranchir de la norme et par conséquent, de fait, sortir du silence?
Sociobiographie, ça a deux sens.
On a bien compris.
Ce que je fais, c'est pas une auto-analyse.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est une sociobiographie, parce que ça, dès Retour à Reims, mais encore plus dans Vive vieillesse et mort d'une femme du peuple, c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de ma famille, de ma mère, de mon père, de mes grands-mères. Il y a des chapitres sur mes grands-mères. Et c'est le portrait d'une classe sociale. Donc, c'est des biographies sociales et sociologiques des personnages. Mes personnages sont des personnages sociologiques. Ce ne sont pas bien sûr, ma mère n'est pas seulement un personnage sociologique, mais elle est aussi un type social. Et j'essaie, à partir de ce qu'elle a été, de la description de ce qu'elle a, de sa vie et tout ça, de définir comment elle appartenait à un type social, comment elle incarnait un type social, et qu'est-ce que c'était que ce type social, femme ouvrière, de la classe ouvrière blanche du nord de la France. Donc, sociobiographie, c'est ça, c'est définir des types sociaux. Mais aussi, sociobiographie, pour moi, ce n'est pas une auto-sociobiographie, parce que même si je m'analyse moi-même, je suis dans le monde social, moi aussi comme un type social. Je reprends le grand philosophe et critique littéraire hongrois Georges Lukács, dans son livre sur le Balzac et le réalisme français, dit chez Balzac construit ses personnages comme des types sociaux. Et je me suis dit, voilà, c'est pas seulement chez Balzac qu'il y a des types sociaux, c'est dans la vie autour de nous. Donc j'essaie de reconstituer cette typicité sociale des gens que je décris. Donc ce sont des personnages sociologiques. Et moi-même, comme je dis, parce que mon intervieweur, Geoffroy Havard, grâce à qui ce livre existe, et sa détermination, son intelligence, mais aussi son opiniâtreté, parce que parfois j'avoue que j'étais un peu dilettante, me pose la question, mais c'est pas seulement votre mère qui était un type social, vous aussi. J'ai ben oui, bien sûr, je suis un type social.
Ça va changer votre écriture, vous pensez, de vous être arrêté sur votre œuvre philosophique et sociale?
Non, j'essaie de reprendre, parce que là j'ai commencé un nouveau livre dont le titre provisoire c'est Arriver à Paris, et où j'essaie j'ai dit à mon éditrice, le titre c'est Arriver à Paris, mais provisoire. J'ai dit, ah non, pas du tout provisoire. c'est le titre que je voudrais garder. Et où Retour à Reims s'arrête sur mon arrivée à Paris. Et là, c'est quels sont ces milieux professionnels, sociaux, culturels que j'ai rencontrés en arrivant à Paris, et offrir d'autres typologies sociales, et voir comment... qu'est-ce que c'est que la... Parce qu'on a beaucoup parlé des transfuges de classe. Il y a des exemples éminents de récits de transfuges de classe. Je signale d'ailleurs, j'ai préfacé le livre de la sociologue québécoise Caroline Dawson. Le livre était sorti au Québec il y a 3 ou 4 ans. Et un éditeur français, l'Olivier, vient de le publier en France. Ça s'appelle « Là où je me taire ». C'est un livre absolument magnifique. J'ai fait la préface. C'est le récit d'une transfuge de classe, immigrée chilienne au Québec. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même histoire que la mienne, bien sûr. Mais j'essaie de voir dans ma préface tout ce qui est une sorte de structure commune de la trajectoire des transfuges, la honte, le rapport au conflictuel aux parents, essayer de récupérer
au silence,
voilà, et puis un jour vouloir récupérer tout ça, se réapproprier ce qu'on a.
Je suis obligée de vous couper.
Oui, pardon.
Parce qu'en fait, on n'a pas assez de temps.
Oui, oui.
Très malheureuse de ça. Parce qu'en fait, ce livre, c'est comme si vous aviez fait une masterclass, je trouve. Et encore, pardon. Mais en tout cas. Du coup, je vous repose la question d'avoir écrit ce livre, d'avoir regardé ce que vous avez accompli. Qu'est-ce que ça change pour votre écriture maintenant? Est-ce que vous avez conscience que vous avez changé quelque chose dans l'écriture sociologique? Est-ce que vous avez conscience que vous avez apporté un élément fondamental qui est justement celui dont a parlé Bourdieu ou Deleuze? Mais vous l'avez fait. Est-ce que vous avez conscience du poids de votre écriture aujourd'hui dans la réflexion des classes sociales? Est-ce que ça vous conforte dans le fait de continuer, justement? Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que ça vous rend fier? Qu'est-ce que ça vous fait, Didier?
J'en ai conscience. Enfin, ça fait un peu présomptueux et même outrecuidant. Oui, j'ai conscience de l'importance de mon travail. Vous me pardonnez.
Dites-moi vraiment, on s'en fiche.
Caroline Dawson, dont je viens de parler, elle est immigrée chilienne, fille d'immigrée chilienne au Québec, et elle dit j'ai eu l'idée de mon livre en lisant Retour à Reims de Didier Ribon, le sociologue brésilien.
Georges Henrique Bortolucci,
qui a publié l'année dernière en France, son livre Ce qui m'appartient. Il est fils de camionneur brésilien et il dit mon modèle, c'est
donc
c'est,
on est tous d'accord, mais vous donc,
alors. Oui, non, c'est pour répondre à votre question. Oui, j'ai conscience d'avoir changé l'écriture sociologique, et pas seulement en France, mais d'ailleurs peut-être beaucoup plus en Allemagne, en Grèce, au Brésil, en Argentine, au Québec, qu'en France, où il y a toujours une résistance, comme ça, bizarrement, de l'université, un peu crispée sur ses traditions et ses routines, et qui n'aime pas qu'on la mette en question. Mais oui, j'ai conscience d'avoir changé l'écriture sociologique, et j'ai bien l'intention de continuer, parce que dans Arriver à Paris, sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, j'essaie de pousser encore plus loin, si c'est possible, ce que c'est que le récit personnel d'une trajectoire de transfuge de classe, qui fasse entrer ce récit de transfuge de classe dans une structure sociale qui permet de comprendre ce que c'est. Parce que le récit, si on fait un simple récit, on dit bon, voilà, c'est un récit personnel. Je ne sais plus qui a dit que c'est des gens qui venaient pleurer sur leurs histoires personnelles. J'ai oublié son nom. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai lu ça dans les journaux, un compte rendu. Je me dis, mais non, il s'agit pas pour moi, comme il s'agit pas pour Édouard Louis, comme il s'agit pas pour Caroline Dawson, de pleurer sur nos histoires, où il s'agit d'essayer de produire des connaissances sur le monde social à partir de nos expériences personnelles qui sont lues, interprétées avec des concepts sociologiques. Donc sociobiographie, c'est un concept que j'essaie de mettre en place, qui regroupe tous les concepts sociologiques dont nous avons parlé, la honte, le stigmate, la réappropriation du stigmate, les classes sociales, les transformations des classes sociales, parce qu'évidemment, quand mes parents étaient ouvriers, travaillaient dans une usine, les classes sociales aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Le rapport à la politique n'est plus le même.
Ni aux médias.
Aux médias.
Vous racontez, c'est assez drôle, hein, parce que vous êtes égal à vous-même. Didier Ribon, dans ce livre, vous dites il y a quand même eu une époque où les revues, la lecture de la presse était stimulante.
Stimulante.
J'aime beaucoup,
oui,
cette formule. Oui. Alors, ma dernière question, du coup.
Ça a pu l'être, ça l'était. Certaines revues, peut-être, mais pour ce qui est de la presse.
Alors, ma dernière question, du coup. Avoir précipité pendant cette heure, parce qu'il y a tellement à dire, et ce bouquin est vraiment passionnant, tant sur votre écriture que sur j'ai envie de dire les 50 ans qui viennent de s'écouler dans une réflexion intellectuelle et universitaire. Quel rôle, quel enjeu se joue dans le rôle du statut que vous avez, c'est-à-dire un statut d'intellectuel reconnu? Quel est l'enjeu?
Par exemple, dans mon dernier livre, Vivillier, c'est mort d'une femme du peuple. Je me constitue comme le porte-parole de ma mère, privé de toute possibilité de parler politiquement, d'accéder à la sphère politique pour protester contre les conditions de vie qui lui étaient faites dans la maison de retraite où mes frères et moi l'avions installée. Donc il y a une protestation politique que je porte parce que ma mère ne pouvait pas la porter elle-même dans l'espace public. Et quand je dis ma mère, ça veut dire toutes les personnes. C'est pas seulement ma mère, c'est toutes les personnes qui sont hier et aujourd'hui qui vivent les mêmes conditions que celles qui étaient les siennes.
Donc c'est ça l'enjeu, c'est celui-là.
Un rôle de porte-parole. Mais aussi la dimension politique. Il y a aussi une dimension proprement intellectuelle, théorique, qui est comment reconstruire une théorie sociologique, philosophique de gauche, en tout cas critique. Qui soit critique de l'ordre établi. Il y a des gens pour qui l'ordre établi ne pose aucun problème et donc ils renoncent à l'analyser. Ils voudraient qu'on renonce aussi à l'analyser. Moi, je ne renonce pas à l'analyser. Produire une théorie critique du monde social et donc élaborer un certain nombre d'analyses, de réflexion et de concept. Et je pense que la sociobiographie recouvre un certain nombre, enfin, cette démarche pourrait être un résumé de cette démarche de sociologie critique. Et vous avez parlé de philosophie. J'essaie d'abolir les frontières disciplinaires parce que ça ruine la pensée quand vous devez être sociologue ou philosophe ou historien ou romancier. Et moi, alors évidemment, chacun choisit il faut un champ de savoir, un champ philosophique, un champ sociologique. C'est pas la même chose. Je ne conteste pas ça. Mais quand on écrit, on peut aussi se dire, moi, j'ai recours à des philosophes. Je me réfère à Gilles Deleuze, à Jacques Derrida, à des sociologues, Erwin Goffman, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, bien sûr, Michel Foucault, à des écrivains, Proust, ou comme dans Gilles Genet, bien sûr, Sartre, Violette Leduc, qui a écrit des livres magnifiques, Assia Djebar, le premier volume de son autobiographie « L'amour et la fantasia » m'a beaucoup marqué quand elle dit, elle raconte l'histoire de l'Algérie, l'invasion de l'Algérie par les troupes coloniales françaises, et elle dit « je comprends que je suis né en 1842 quand les troupes coloniales ont incendié le village de mes ancêtres. » Sa date de naissance biologique, c'était 1936 ou 37. Mais la date de naissance qu'elle donne pour son autobiographie, c'est 1842. C'est-à-dire une histoire politique, coloniale, géographique, militaire, de violence. Et donc, chacun de nous a une date de naissance antérieure à la date de naissance.
Dans ce livre, vous en avez deux.
J'en donne deux, oui.
Voilà. Et on ne dira pas lesquels.
On ne dira pas lesquels. J'ai laissé.
Les gens pourraient le lire.
Un effet de teasing.
Pardon de vous avoir un peu.
Non.
Ce n'est pas mon habitude, mais en fait, ce livre est vraiment passionnant pour plein de raisons, et je le disais encore, et j'avais vraiment très envie de vous interroger. Et je reste de toute façon sur ma fin, tellement il y aurait à dire, Didier Ribon. Sur le mot de la fin, en fait, en deux minutes, est-ce qu'il y a une chose très importante que vous n'avez pas dite sur ce livre et qui vous semble importante à souligner sur ce travail?
Ce serait plutôt à vous de le dire.
Je sais que ça a été un travail long, difficile.
C'est très difficile de s'observer soi-même. Chose que je veux, c'est rendre hommage à Geoffroy Huart, qui est un historien de l'Espagne contemporaine, qui est maître de conférence à l'université de Cergy, et qui, par ses questionnements, parce que c'est un livre qu'on a fait à deux, par ses questionnements, m'a un peu poussé, on se dit vous dans le livre, mais en fait on se dit tu dans la vie, m'a un
peu poussé. Oui, on comprend parce que vous l'emmenez à l'opéra avant le livre.
Dans mes retranchements, et parfois je lui disais, tu sais, tu me casses les pieds, et oui peut-être, mais tu vas quand même répondre à ma question.
Ouais.
Donc, ok, je réponds à la question.
Parce que c'est très dur ce que vous avez fait comme travail, c'est finalement observer ce qu'on a fait soi-même.
Ce qu'on a fait soi-même, essayer de revenir. Alors il y a des parties plus théorique sur le structuralisme.
Est-ce qu'il y a une chose que ça vous a apporté, ce travail?
Oui, la nécessité de ne pas qu'on peut dire je en sociologie, qu'on peut dire je en philosophie, et que même si on a une sorte d'implication du sujet dans la recherche, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je ne donne pas de prescription.
Non, mais on peut le faire.
Je dis que non seulement on peut le faire, mais que ça produit des effets non seulement de récits, de connaissances sur tel ou tel individu ou telle trajectoire, mais des effets sociologiques, philosophiques et beaucoup plus larges, et des effets théoriques. Je crois que dans ce livre, à travers un certain nombre de discussions, quand je critique par exemple la psychanalyse en m'inspirant de Jean-Pierre Vernant, grand helléniste, qui a fait un article qui s'appelle Œdipe sans complexe, et qui dit mais Freud n'a rien compris à la pièce de Sophocle Œdipe roi, parce que c'est pas de ça qu'il est question, c'est pas, et quand il la pièce porte sur les transformations sociales et morales de la Grèce antique, il s'agit pas du tout d'une histoire de un enfant qui veut tuer son père et coucher avec sa mère, ou quand Meyer Shapiro, le grand historien d'art, critique l'interprétation du tableau de Léonard de Vinci, la Vierge avec Sainte Anne et l'enfant Jésus, où Freud dit, Freud a eu deux mères, une mère biologique et une mère adoptive, donc il peint la Vierge avec Sainte-Anne. Et Meyer Shapiro dit, et c'était un thème partagé à l'époque, il y a eu beaucoup de représentations de ce thème-là avant Léonard de Vinci, et c'était, il y avait toute une dispute théologique, c'est, est-ce qu'on peut représenter, est-ce qu'on peut faire un culte trinitaire sur la Vierge, Sainte-Anne qui est la mère de la Vierge, et l'enfant Jésus. Il y avait tout un débat théologique, donc Léonard de Vinci n'invente rien. Ce qu'il invente, c'est des formes nouvelles.
C'est ça. Et là, on va se faire plein de bons amis, là, chez les psychanalystes, Dieu sent, après cette...
Ils ont l'habitude avec
moi. Oui, c'est ça, ils ont l'habitude. Et je trouve que...
Certains restent des bons amis, d'ailleurs.
Et c'est intéressant de terminer sur, finalement, cette idée assez ouverte de l'autorisation. Et... C'est ce qu'on pourrait aussi retenir, entre autres, de votre travail, c'est de l'autorisation à pouvoir aller plus loin. Je vous remercie infiniment, Didier.
C'est moi qui vous remercie.
Vraiment, pardon encore de vous avoir...
Oh, mais non, c'est moi qui m'excuse de faire des trop longues réponses à vos questions. Merci.